Miranda ne fait pas le printemps. Tôt ou tard, il faudra bien qu'elle mette le nez dans la ferme. Et on verra comment elle se débrouille, la parisienne.
CO2, mon amour. Denis Chessoux.
Oui, mais vous vous débrouillez parfaitement, comme Pauline Laverdure et Benjamin Dagatinet aujourd'hui la technique, et assisté de Stéphane Combe, c'est Christophe Imbert qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur, heureux week-end à tous, le grand bal des cartouches est reparti, c'est enfin l'ouverture de la chasse. Planquez vos enfants. La France est le seul pays en Europe à la pratiquer 7 jours sur 7 et pas loin de 6 mois de l'année, record mondial. Et sans périmètre de sécurité autour des habitations sur la moitié du territoire depuis 1982. Donc on attend toujours l'établissement d'une réglementation nationale pour encadrer la sécurité liée à la chasse. Alors cette mesure a bien été prévue dans la loi chasse de 2000, mais on attend le décret qui n'a toujours pas été publié, ce qui nous a donné l'an passé 21 morts, 14% de tués qui concernent des non-chasseurs, promeneurs, automobilistes, amoureux, que sais-je. Bon, certes, vous me direz, c'est moins qu'à Marseille ou en Corse pendant un an, mais dans nos assemblées chasseresses à gauche comme à droite, eh ben, les victoires de la Révolution se remettent difficilement en question. Donc l'ouverture, oui, mais vers les autres, vers les non-chasseurs qui ne sont pas d'ailleurs forcément des anti-chasseurs, hein, qu'on ne se trompe pas, eh ben, on attend les preuves. Et du côté de l'Angleterre, pour rester un petit peu sur ce thème, mais différemment, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Il se trouve que de l'autre côté du Channel, eh bien, on préfère lui apporter une variante qui peut se résumer ainsi. Qui veut trucider ses blaireaux les accuse de propager la tuberculose. Ce brave mustélidé a l'air de vengeur masqué, vous savez, que son petit masque vadrouille dans les bocages à la nuit tombée, en quête de mulots, de hérissons et autres campagnols, donc pas complètement de quoi fouetter un chat et pas de motif suffisant pour ne pas blairer la bête. Sauf que la tuberculose fait tousser les vaches broutant dans les prés britanniques et que l'on soupçonne notre bestiole de véhiculer la maladie comme d'autres colportent les mauvaises nouvelles. D'où ce verdict sans appel, abattons les blaireaux pour éradiquer le mal. Deux comtés administrés furent choisis pour mener cette opération punitive à titre expérimental. Et si le quota des 5000 blaireaux abattus, qui est l'objectif fixé, se traduit par une amélioration de qualité sanitaire des troupeaux de bovins, l'expérience sera étendue à l'ensemble du pays. Et il est vraisemblable que dans ces conditions, les blaireaux écossais deviennent massivement indépendantistes. Et je vous le disais, donc nous sommes dans un monde en marche, alors une actualité. On va parler de la première ferme éolienne financée par des particuliers. Nous sommes à Bégane dans le Morbihan et avec vous Michel Leclerc, vous êtes le vice-président d'Éoliennes en Pays de Vilaine.
Ce qui est original, c'est le fait que depuis l'origine, ce projet a été porté par des gens du territoire, des particuliers, d'abord regroupés en associations, puis après moult péripéties, ils ont créé une société en action simplifiée, mais financée par des milliers de personnes du territoire. Et effectivement, pour l'instant, en France, c'est une première.
Alors, ce n'est pas une première lorsqu'on est au Danemark, lorsque l'on est aussi en Allemagne. Ça fait déjà longtemps que énergie et participation citoyenne sont bien enracinées.
En Allemagne, plus de 54% des parcs éoliens sont financés par des particuliers, ce qui est énorme. En France, c'est quasiment rien. Mais il y a une dynamique qui se met en place et nous espérons bien que ça se retrouve un petit peu partout en France.
Michel Leclerc, début 2014, qu'est-ce que l'on va voir surgir donc chez vous ?
Donc début 2014, 4 éoliennes vont être installées. Les fondations sont réalisées là. Elles fourniront de l'électricité pour 18 000 personnes du secteur, ce qui n'est pas négligeable.
Alors ce sont donc des mâts de 100 mètres, hein, la puissance totale donc c'est 8 mégawatts, donc c'est évidemment c'est pas neutre. Cette énergie est en fait revendue au réseau EDF ?
Elle est revendue à EDF, mais elle est consommée sur place. L'électricité ne se stockant pas, étant consommée au plus proche de la zone de production, ce sont directement les habitants du territoire de Bégane et des environs, puisque ça va bien au-delà de la commune, qui la consommeront.
Alors, on imagine bien que d'un point de vue montage, c'est sûrement pas simple dans un pays qui est quand même assez centralisateur au niveau de l'énergie.
C'est vrai qu'on a défriché, notamment sur la façon de faire participer des centaines de personnes. ça a été un peu compliqué, c'est notamment avec les banques pour qu'elles comprennent et acceptent la présence de tous ces citoyens. Mais c'est fait, et puis on espère que ça sera plus facile pour les autres projets.
Combien ça coûte ?
L'ensemble coûte un peu moins de 12 millions d'euros, mais nos fonds propres qui ont permis de lever les emprunts, c'est 2,7 millions d'euros. Et là-dessus, il y a plus de 2,3 millions d'euros qui ont été apportés par des particuliers. Donc c'est vraiment l'immense majorité.
Quelle est la motivation première de ces particuliers ?
Alors je crois qu'ils avaient envie de soutenir un projet qui leur plaisait bien. Finalement, de s'impliquer dans le domaine de l'énergie, ça nous semble très important. Et puis, effectivement, c'est pas du don, c'est un investissement et ils auront une rentabilité sur le projet.
La rentabilité, ce serait de quel ordre ? À peu près, on va dire.
À peu près, le chiffre qu'on a annoncé, c'est de l'ordre de 4% moyenné. Mais les gens sont bien conscients qu'il s'agit d'un investissement, que les bonnes années, ça peut être un peu plus, les moins bonnes années devant, ça peut être un peu moins.
Est-ce qu'il y a eu beaucoup de mouvements de protestation concernant ces quatre éoliennes, je le rappelle, donc 100 mètres de haut, avec des pales de 45 mètres ?
On n'a eu aucun mouvement de protestation. On a eu des inquiétudes, ce qui est normal quand on transforme le paysage des gens. Mais je crois que le fait que ces éoliennes soient visibles permet de faire comprendre les enjeux de l'énergie. Et pour nous, c'est très pédagogique que les éoliennes, on ne peut pas les cacher dans le paysage, parce que ça va faire réfléchir les gens sur leur consommation d'énergie et en se réappropriant cette énergie, de comprendre les enjeux actuels qui sont de la réduction des consommations énergétiques pour arriver à une planète un peu plus viable.
C'est Pierre Lehire du Monde qui a attiré notre attention avec un article donc sur Bégane dans Le Monde, dans Le Morbihan. C'était juste après la pluie, un jour où la terre se change en parfum. Alors il l'a vue arriver vers lui, elle était superbe. Avec les paumes de ses mains, il fit une coupe pour retenir l'eau. Il comprit ce jour-là qu'il fallait faire de même avec l'amour, le retenir sans le serrer dans les paumes de sa main pour garder son parfum.
Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo. Matar o seu coração, água de beber, água de beber, camarada, água de beber, água de beber, camarada. Te batunda, bate lá da badaba, te batunda, bate lá da badaba, te batunda. Minha casa vive aberta, abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber.
Une histoire d'eau, une histoire de balade choisie par Thierry Dupin, notre programmateur, Astro de Gilberto. Nous allons partir tout à l'heure en Chine, rejoindre Philippe Reltien. Nous allons aller sur les bords de la Garonne, voir aussi une belle initiative concernant les hydroliennes. Et maintenant, eh bien, nous allons rester en ville, en région parisienne.
En ville, chez les urbains.
Avec vous, Gérard Felzer, que l'on connaît si on écoute France Info, si on s'intéresse à l'aéronautique, parce que vous êtes le chroniqueur de la rubrique Transportez-vous. Tenez, alors on va peut-être commencer aussi par votre actualité, parce qu'en fait, cette semaine, vous étiez en ballon électrique au-dessus de la Manche et vous avez réussi votre deuxième tentative de traversée de cette Manche, une centaine d'années après Blériot. C'était des conditions rock'n'roll.
Oui, mais c'est toujours un petit peu comme ça, les aventures. Il arrive toujours ce qui n'est jamais prévu à l'avance. Donc, il n'y avait plus de bateau assistance, le moteur a pris feu, après les communications radio ne se faisaient pas, après il y a eu le brouillard, et le vent qui n'était pas dans la bonne direction, qui nous amène directement sur une centrale nucléaire, la plus grande d'Europe. Donc, comme il n'y avait pas marqué Greenpeace sur le ballon, on a essayé de se poser avant. Mais il y avait un taureau qui nous attendait à l'arrivée, donc c'était pas triste non plus. Mais bon, voilà, on est arrivé dans la bonne humeur, avec un ballon qui a très bien marché.
Voilà, et donc vous avez couru très très vite. Et qu'est-ce que vous souhaitiez en fait montrer avec ce ballon ?
Montrer qu'on pouvait voler propre. Et voler propre, c'est-à-dire avec des énergies renouvelables, avec du soleil, avec des batteries performantes, avec des moteurs électriques, sans bruit, en silence, sans émission, c'est un peu le rêve. Et si on est capable de voler propre, un peu comme Bertrand Piccard avec son Solar Impulse, eh bien ça veut dire qu'on peut rouler propre et puis que d'une façon générale dans la vie, on peut être un tout petit peu plus vertueux.
Et alors on va prendre un câble et on va se laisser glisser. Et ça c'est très intéressant parce que maintenant de plus en plus de villes s'intéressent donc à ce mode de transport qui est donc le câble, qui est une idée en fait très ancienne, Gérard Felzer.
Oui, c'est depuis quasiment que l'homme a connu la roue et la ficelle. Il y a des grandes sociétés françaises, on peut le dire. Il y a Pomagalski, qu'on connaît quand on fait un peu de ski, mais qui maintenant transporte plus de gens dans les contrées à pied, non pas en ski, en montagne. 7000 passagers par heure dans le monde. Le téléphérique de New York, de Rio, en Chine, un grand marché. Et puis, c'est une entreprise qui est en France, à Grenoble, qui fait travailler beaucoup de monde avec 230 millions de chiffres d'affaires. Je pense que c'est une bonne chose pour nous. On exporte du savoir-faire un peu partout dans le monde. Et puis, c'est un transport qui est relativement propre par rapport au reste. Et pourquoi c'est propre ? Parce qu'il n'y a qu'un seul moteur qui entraîne le câble et toutes les cabines. Et surtout, il n'y a pas d'emprise au sol. Et ça, c'est formidable parce que la coupure des territoires pour la biodiversité, entre autres, bonjour.
Alors, Gérard Felzer, qu'est-ce qui est intéressant quand même dans ce transport par câble ? Parce que là, on voit ça maintenant fleurir. Bon, on sait qu'il y a des projets sur Toulouse, il y en a sur Grenoble. Il y a aussi Brest qui s'y intéresse et ça va être, je crois, opérationnel en 2015. Mais pourquoi on s'y intéresse seulement maintenant chez nous en France ? Et donc, quels sont ses avantages ?
Alors, il y a des vieux blocages, des habitudes. On a une vieille habitude, alors je ne vais pas critiquer les ingénieurs, les XPON, mais c'est vrai qu'ils sont partis dans des schémas qu'ils ont toujours utilisés. Oui, c'est du folklore, c'est comme les dirigeables, c'est pareil. Eh bien, on s'aperçoit que c'est 4 fois moins cher en investissement et en exploitation que les tramways, qui sont déjà moins chers que le reste. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a une logique économique et on est poussé par un fait de société qui fait qu'on a envie de consommer moins et puis que ça soit meilleur pour la santé. Et pour les passagers qui viennent au boulot le matin, s'ils prennent ça, c'est un peu les vacances.
Nous sommes à Bolzano, dans le sud Tyrol, en Italie. Ici, une délégation de Téléval, le projet de téléphérique urbain du Val-de-Marne, est venue découvrir le téléphérique de renom qui relie Bolzano au plateau de Sopra-Bolzano. 8 cabines transportent 550 personnes par heure et par sens. Durée du trajet, 11 minutes. Un dispositif très proche du projet Téléval qui relierait en à peine 15 minutes Villeneuve-Saint-Georges et Créteil-Pointe-du-Lac en passant par Limeil-Brévannes.
Alors, on va s'intéresser à un exemple très concret avec vous, Johan Rispal, parce que vous êtes chef de projet du Téléval, c'est-à-dire le téléphérique en Val-de-Marne. Vous allez nous emmener du côté de Créteil. On va peut-être même rejoindre Villeneuve-Saint-Georges. Quel est ce projet ?
Le Téléval, c'est une réflexion que les collectivités ont engagée il y a déjà plusieurs années, plus de 5 ans, d'un téléphérique urbain entre, effectivement, Créteil, la ville-préfecture du Val-de-Marne, et les territoires alentours, Créteil, Villeneuve-Saint-Georges, Valenton et Limeil-Brévannes. Donc un bassin de vie de 160 000 personnes où on enregistre des difficultés de déplacement considérables.
C'est très congestionné, comme on dit.
Oui. Très congestionné, effectivement. Un seul exemple, 55 000 véhicules par jour en plein centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges, où des dizaines de milliers d'habitants résident. Donc c'est très important. Et sur ce territoire, nous avons eu cette réflexion parce que nous sommes face, comme Gérard le soulignait, à des coupures urbaines extrêmement importantes. Alors, évidemment, on pense au téléphérique en montagne, quand il y a du relief. Mais en ville, c'est toutes les coupures, de manière générale, qui justifient le téléphérique. Et chez nous, nous sommes servis gare de triage, ligne à grande vitesse, ligne à haute tension, autoroute urbaine, emprise logistique. Et c'est comme ça, de par ce constat géographique, que le câble est devenu intéressant et que les élus s'y sont intéressés.
Donc là, il s'agirait en fait d'un parcours de 4,5 km entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges. Donc on traverserait la gare de triage et ça permettrait donc à des gens d'éviter de prendre évidemment la voiture ou d'autres transports en commun ?
Effectivement, on passerait au-dessus des voies ferrées, au-dessus de l'autoroute et en dessous des lignes à haute tension. Tout cela est contrôlé, est étudié et nous avons l'aval des autorités compétentes. D'autant plus que le système téléphérique est un système extrêmement sûr. Hein. On le dit, selon les statistiques, plus sûr que le train et l'avion. Et effectivement, on permettrait à des milliers d'usagers. Hein. On estime le trafic à l'ouverture du Téléval en 2018 à plus de 13 000 voyageurs par jour. Mmh. Un trafic assez important, quotidiennement, des gains de temps très importants. En moyenne, 30 minutes économisées pour un aller-retour. 30 minutes dans une vie, c'est énorme pour les enfants, pour les courses ou pour autre chose.
Et puis au calme, et puis presque comme un oiseau, hein, c'est ça donc,
voilà. Presque comme un oiseau, bien accroché. Néanmoins, presque comme un oiseau, effectivement, le confort est une notion extrêmement importante dans ce type de transport par rapport aux autres. Oui. Il a été souligné qu'il n'y avait pas de motorisation embarquée à bord des cabines, donc le silence. Et puis nous sommes aussi sur quelque chose d'extrêmement rapide en milieu urbain. Nous sommes à des vitesses commerciales comparables au tramway ou au bus en site propre, alors qu'au sol, nous ne consommons pas d'emprise à l'exception des stations et de quelques pylônes, c'est quelques mètres carrés tous les centaines de mètres.
Une soixantaine de cabines. Dans chaque cabine, à peu près 15 personnes. Il y a différentes stations ou ça se fait d'une seule traite ?
Effectivement, il y a 4 à 5 stations. Aujourd'hui, la concertation avec la population n'a pas encore lieu. On ne peut pas définir comme ça le nombre de stations. 4 à 5 stations pour desservir des endroits aujourd'hui relativement enclavés, notamment des zones urbaines sensibles où des milliers d'habitants ont des difficultés pour rejoindre les pôles d'emploi alentour. Nous avons aussi des secteurs où le taux de chômage est extrêmement important. Et puis, arrêtez là le tableau. Valenton et Villeneuve-Saint-Georges sont les communes les plus défavorisées de notre département. Il y a un enjeu social extrêmement fort.
C'est Joseph Rossignol, maire de Limeil et conseiller général, qui a eu le premier l'idée de ce métro-câble. Et très vite, les communes concernées par le projet et le conseil général ont suivi.
Comment faire en sorte de franchir à la fois la 406, à la fois la ligne TGV, à la fois le triage de Valenton, si ce n'est effectivement avec un système par câble qui nous permet bien sûr d'avoir des coûts beaucoup moindres que s'imaginer avoir une voie de desserte qui enjambe l'ensemble de ces faisceaux.
Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Gérard Felzer, parce que c'est quand même assez enthousiasmant.
Oui, alors, juste une question, Johan, c'est parce qu'il y a Cécile Duflo qui habite à Villeneuve-Saint-Georges.
Oui.
Non, trêve de plaisanterie. Moi, j'étais impressionné par le métro-câble, on l'appelle comme ça aussi, notamment à Medellín, en Colombie et à Bogota, parce qu'ils ont des correspondances immédiates avec les bus, avec les tramways, avec le câble qui arrive au-dessus. Et c'est vraiment une des solutions qui est très encourageante. J'espère qu'on arrivera à faire ce projet-là. Peut-être ici les Moulineaux, Meudon un peu plus tard, mais peut-être autre chose. Poma, je ne sais pas si c'est lui qui sera choisi. En tous les cas, il a refait le funiculaire de Montmartre. Donc, c'est une vieille tradition française. Et il y a quelques petites réticences administratives, notamment parce qu'on voit les gens d'en haut, on survole des écoles, etc. Donc, des petits problèmes administratifs, me semble-t-il, mais qui seront, j'espère, assez vite résolus.
L'avantage considérable sur le Téléval, c'est que nous réutilisons à plus de 75% des emprises déjà constituées par des personnes publiques ou parapubliques, ce qui nous permet de nous éloigner considérablement des habitations. Et d'ailleurs, nous ne survolons aucune habitation. Les élus ont bien intégré cette donnée.
C'est-à-dire que les gens sont un peu parano quand ils ont dit « Ah, bah tiens, on va passer au-dessus de chez moi, je vais dans ma salle de bain, ça ne va pas du tout. » Vous voyez,
ça arrive, effectivement, dans la salle de bain ou dans le jardin. Mais ce ne sera pas le cas sur ce projet. Nous avons cet atout-là. C'est aussi pour ça que les autorités organisatrices, comme le STIF en Île-de-France ou la région Île-de-France ou le Conseil Général ont cru dans ce projet. Il a de nombreux avantages au-delà du volume de personnes à desservir.
Alors pour nous, ça paraît un peu nouveau, mais en fait, Gérard Felzer, vous avez déjà effectivement évoqué Rio et puis d'autres lieux, mais qu'est-ce qu'on a comme lieu exemplaire où ça marche déjà depuis très très longtemps, où cette idée-là fonctionne?
Le plus emblématique en téléphérique urbain, c'est Rio, en effet, parce que c'est une cité qui est entourée par beaucoup de collines, 7 ou 8, et soit on creuse des tunnels, soit on rejoint d'un point à un autre. Le pain de sucre, le Corcovado, tout ça, ce sont des balades emblématiques formidables. Et depuis qu'on a ouvert, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est l'année dernière, un nouveau téléphérique qui arrive dans la plus grande favelle de Rio, ça a désenclavé ces favelles et ça a eu un effet social extrêmement important. Et je pense que c'est un exemple sur nos banlieues, c'est qu'on amène un éclairage un tout petit peu nouveau. on leur met du baume au cœur.
Bon, on sera là à l'inauguration. Les élus maintenant sont convaincus, en tout cas les vôtres, ils ont l'air de l'être. Hein, donc.
Oui, contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir quand on ne connaît pas le projet, le téléphérique en ville, qu'est-ce que c'est ? Les élus ont demandé à être convaincus, tout simplement, et les techniciens ont fait leur travail. On a démontré d'une part que les solutions traditionnelles telles que le bus ne pouvaient pas répondre aux besoins, et puis après on a présenté le téléphérique, aspect sécuritaire, aspect débit, etc. Et tout allait très bien.
Et le 1er octobre à Créteil, ben aura lieu le premier colloque national sur les téléphériques en ville. Voilà, donc là aussi, ça bouge dans les collectivités. Est-ce que ça vous dirait maintenant d'aller au bord d'un fleuve ? Alors je l'ai choisi pour vous, c'est la Garonne.
Entreprendre une autre économie.
À descendre sur le ponton, le quai de la demi-lune, donc ça vous dit tout de suite où nous sommes. D'abord le fleuve est superbe encore aujourd'hui.
Très très beau. Une très jolie couleur, les couleurs reviennent un peu avec le début du printemps, et une couleur marron de cette Garonne qui est très particulière et qui change au cours des saisons. Là, elle est presque verte, si vous revenez dans 2 mois, elle sera marron, parce que les matières en suspension seront plus concentrées. C'est un phénomène très connu des estuaires qui s'appelle la flocculation, et ça se donne tout son caractère poétique à ce fleuve.
Ah, c'était très très beau. Ça, c'est vraiment, on n'a pas vu les alauses et l'emploi remonter, mais c'était quand même très beau. Vous connaissez le pont de Pierre, bah, évidemment, si vous êtes bordelais, je ne vous en parle même pas. 1822, donc superbe pont. Nous sommes là avec Marc Lafosse. Marc Lafosse, il est océanographe. Il a fait une très belle carrière de nageur sportif, il faut le dire. Et puis, depuis 2009, il est à la tête d'un jeune bureau qu'il a créé, un bureau d'études, qui s'appelle Énergie de la Lune, donc il nous rappelle ce qu'est la demi-lune. Et il s'est rendu compte que le courant était accéléré par ce fameux pont de Pierre, ce courant de la Garonne. Donc, c'était un site d'essai qui était assez idéal pour y planter des hydroliennes. Il nous raconte cette histoire. Nous nous retournons et nous avons donc ce pont qui est très connu des Bordeaux, d'ailleurs qui est arrivé tard pour relier les deux rives, qui est le pont de Pierre.
Exactement, 1822.
C'est ça.
Parce que ces courants de cette Garonne, ils sont accélérés par le pont de Pierre justement. Et dans quelques mois, il y aura une installation d'un site d'essai pour tester des hydroliennes, qui sont des sortes d'éoliennes subaquatiques qui peuvent produire de l'énergie électrique à partir des courants de fleuve, les courants d'estuaire, mais aussi les courants océaniques, évidemment.
Et on imagine bien que ce courant va être distribué très près, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la proximité.
Exactement, c'est aussi l'objectif de ce site, c'est de pouvoir produire de l'énergie au centre du besoin, de le distribuer par l'intermédiaire d'un raccordement au réseau ERDF, aux premiers bordelais qui sont les plus proches du pont. On estime une grosse centaine de foyers qui seront alimentés par 3 hydroliennes avant la fin de l'année.
Voilà, alors ça, ce sera pour le début. On imagine qu'il y aura un stade donc expérimental.
Exactement, c'est bien le principe. C'est une nouvelle filière, en pleine émergence en France, qui a de très très gros atouts, puisque les Français connaissent bien certains domaines d'activité, comme l'océanographie, comme les travaux maritimes, comme l'énergie, évidemment. Et donc, le fait de mettre à disposition un site et ces infrastructures pour des développeurs d'hydroliennes, des PME, des grands groupes, des consortias d'entreprises qui développent ces machines, et bien tout simplement, ça peut permettre de pouvoir accélérer et donner un coup de pouce à cette filière.
On ne sait pas encore, mais l'ennemi de l'hydrolienne, qu'est-ce que c'est ?
Oh, il y en a plusieurs. D'abord, il y a évidemment le sel. Alors ici, à Bordeaux, on a une présence de entre 3 et 7 pour 1000, ce qui n'est pas tout à fait la même condition que
le rat blanchard, on va dire.
Que le rat blanchard, voilà, on sera à 35 pour 1000. Ensuite, on a des morceaux de bois, ce qu'on appelle des embâcles ici, en local, en bordelais. Ces embâcles, tout simplement, elles arrivent avec les crues. Il faudra donc protéger les machines, mais c'est c'est un projet, enfin c'est un objectif industriel. Hein. Si on se protège des embâcles dans la Garonne, on doit pouvoir se protéger aussi des morceaux de glace dans le Saint-Laurent au Québec. Voilà. Ensuite, on a évidemment le phénomène de la marée. Donc ces machines, elles doivent pouvoir se retourner ou tout simplement fournir de l'électricité dans les deux sens de courant. Évidemment, il y a tout ce qui est suivi d'impact environnemental de ces machines. Et ça, c'est purement mon métier d'océanographe.
Oui, parce que je suis une anguille, un saumon, par exemple.
Exactement. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la machine doit faire du bruit pour signaler sa présence? Peut-être que le poisson qui est peureux va s'écarter de cette zone. Ou est-ce qu'au contraire, la machine ne doit pas faire de bruit? On va regarder également ce qui va se passer si jamais le poisson passe dans la machine. Donc on va faire des lâchers de poissons. Alors de ce côté-là, il y a quand même des résultats du côté des États-Unis où il y a déjà eu ce genre d'expérimentation. Où l'hydrolienne par nature étant une turbine qui tourne très très lentement, entre 7 et 40 tours minute, fait que les impacts physiques sur un poisson sont extrêmement faibles. Et le taux de mortalité d'un poisson qui passe dans une hydrolienne est très très proche de zéro. Donc ça, évidemment, il faut le vérifier. Et puis enfin, il y a aussi d'autres choses que l'on va regarder, comme l'électromagnétisme. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'énergie qui est produite par des rotations de pales? C'est tout simplement un système de bobines, de rotor et de stator. Et ce rotor et ce stator, ils créent un champ électromagnétique. Et vous savez que la Terre a elle-même un champ électromagnétique naturel, terrestre, et que certains poissons, certains mammifères également, s'orientent grâce à ce champ électromagnétique terrestre.
Marc Lafosse, en fait, nous sommes ici dans un acte de relocalisation. C'est-à-dire que les AMAP, on le sait, sont des outils de proximité pour nourrir les gens, mais il y en a plein d'autres. Et là, on est absolument dans cette démarche, et puis ça va permettre aussi de réintroduire de l'industrie dans une ville.
Exactement. Et Bordeaux a de nombreux atouts là-dedans, dans ce domaine-là, tout simplement parce qu'à moins de 2 km ici, vous avez les ateliers du Grand Port Maritime de Bordeaux qui peuvent construire des hydroliennes. Vous avez un slipway qui permet de mettre les machines à l'eau. C'est un appareil qui glisse les appareils à l'eau. Vous avez une filière du matériau, très très en avance en Aquitaine, matériaux composites notamment. Vous avez une filière du naval également, hein, on construit des bateaux en Aquitaine. Pourquoi ne pas construire des hydroliennes? Ce sera le cas. Donc tout ça fait que cette industrie va revivre où? En bord à quai. Parce qu'on ne construit pas une hydrolienne en plein milieu d'un continent. On la construit évidemment au bord d'un fleuve ou au bord d'un estuaire pour pouvoir la mettre à l'eau et pour pouvoir l'exporter dans un autre pays ou dans un autre continent, ou bien dans l'estuaire de la Gironde, qui a un très fort potentiel. L'estuaire de la Gironde correspond à un potentiel de 106 mégawatts. Ça correspond à quand même quasiment 3000 machines, hein, 3000 hydroliennes à la puissance qui sont en train d'être testées à l'heure actuelle. Donc ça sera évidemment des chiffres qui vont progresser, qui vont s'améliorer. Mais on comprend bien que ce courant, il coule dans les murs de Bordeaux, il coule sous nos ponts, et que le capter permettra, un, de produire de l'énergie, et évidemment de relocaliser une industrie dans le centre de cette ville.
Ce seraient peut-être les premières hydroliennes au monde dans une ville.
Exactement, exactement. Alors, raccordé au réseau électrique également, il faut rajouter, parce que New York l'a fait depuis 2007, où 6 hydroliennes d'une société sont immergées dans l'East River et permettent d'autosuffire une partie d'un petit supermarché qui est juste à côté. Là, encore une fois, c'est quelque part une expérimentation qui se transformera, on l'espère, très vite à un stade industriel, puisqu'ils sont sur une prévision de 70 machines immergées dans l'East River. Mais il y a eu tout un tas, voilà, de suivi d'impact, de suivi de performance énergétique, de suivi de comportement pour répondre aux questions de la maintenance, comme on en parlait tout à l'heure. Je me souviens au démarrage de leur expérimentation, ils cassaient beaucoup de pales, ils n'avaient pas choisi le bon matériau. C'est un point qui sera beaucoup testé à Bordeaux, parce que grâce à ces matières en suspension dans l'eau, l'abrasivité de ces matières en suspension sur ces matériaux permettra de faire de très bons choix qui permettront d'aller tenir la mer à Rade-Blanchard, qui permettront d'aller tenir la mer à l'estuaire du Congo, par exemple, ou ailleurs dans le monde. Donc tout ça est sur une phase finale d'ingénierie, et on estime que la phase de travaux du site pour avoir 3 emplacements pour 3 hydroliennes différentes va débuter aux alentours du mois d'octobre-novembre pour une livraison du site avant la fin de l'année.
Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter face à cette superbe Garonne ?
avec le projet se mette en route rapidement. C'est un projet qui est partenarial avec 17 partenaires, avec une contractualisation aussi avec l'ANR via les investissements d'avenir. Donc tout ça prend du temps. Voilà, on espère de pas trop d'être en retard.
Et vous avez France Énergie Marine, donc, qui structure, qui fédère 57 acteurs aujourd'hui, publics et privés, donc, qui cherchent à domestiquer, on l'a bien compris, cette énergie des fleuves, des estuaires et des océans. Did you ever wonder where the night spends all its days? Relaxing in the shadow, baby, or stretched out in the haze? Or does it travel to the void of outer space? Not trying to make a fuss, Lord, we can take our time. Not trying to make you rush, Lord, we can take our time. Such a world. C'était Mathieu E. White sur France Inter, CO2 mon amour. Tenez, je vous signale qu'en matière d'énergie, eh bien vous avez cette semaine et ce week-end à Albi le salon qui s'appelle Evolution, c'est sur l'économie de l'hydrogène. Alors là aussi on en parle, on consacrera aussi un bout d'émission un petit peu plus tard, mais ça a aussi toute sa place. Alors nous avons fait un petit tour du côté du Morbihan, à Bégane, nous étions dans le Val-de-Marne, la Garonne, bah, il manque un peu d'international, on est bien d'accord.
sur la terre.
Allez, enfilez vos masques à gaz parce qu'on va partir maintenant en Chine. On va rejoindre Philippe Reltien. On va voir comment on combat la pollution et comment on essaye d'y remédier. Bonjour Philippe.
Bonjour Denis.
Alors le carrefour du CO2, dans CO2 mon amour, ça s'impose.
Ah ben oui, parce que c'est ici, à Pékin, le carrefour du CO2, dans le nord-est industriel de la Chine. Donc si un jour reconquête de l'air pur, si dépollution il doit y avoir, elle doit commencer par ici. Et ce ne sont pas les plans, les objectifs chiffrés qui manquent depuis les Jeux Olympiques de 2008. La mairie de Pékin n'arrête pas de dire « on va faire ci, on va faire ça ». Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous emmener au-dessus d'un des 6 périphériques de Pékin, à l'heure de pointe, en compagnie d'un homme très intéressant, Bruno Aubert. C'est l'inventeur français à Alès, avec le CAT des Gardons, d'un analyseur d'air, toute petite boîte métallique que chaque piéton ou cycliste pourrait bientôt porter à la ceinture pour savoir quand il doit sortir et mettre son masque. Écoutez. Et
là, on est au-dessus du trafic à l'heure de pointe, le matin à Pékin, deuxième périphérique, et nous voici avec la petite boîte analyseuse d'air, Carpol.
Donc c'est un petit capteur de particules PM2.5 qui a pour caractéristique de bien séparer les particules les plus grosses des particules les plus fines, puisque ce sont les particules les plus fines, les PM2.5, qui sont les plus dangereuses. Mais ce sont également les plus difficiles à mesurer. C'est ce qui fait toute l'innovation du produit. Donc là, on est capable de mesurer en temps réel, avec des moyennes minutes, la concentration en PM2.5. Et à la fin de la journée, de connecter ce petit appareil à un ordinateur et de voir la concentration de particules qu'on a respirées.
Ici, sur une passerelle du périphérique pékinois, vous comptez ?
Là, actuellement, on est à 212 microgrammes, donc on a pris 30 microgrammes en l'espace de 30 mètres.
Alors, 212 microgrammes, il faut savoir qu'à Paris, on doit être aux alentours de 50, quelque chose comme ça.
C'est exact.
Donc ici, on est 4 fois au-delà.
C'est ça. On peut surveiller effectivement son exposition chronique au fil des jours, mais surtout, on va pouvoir éviter des endroits qui seraient trop exposés. Et par exemple, pour aller à l'école, on va pouvoir prendre un chemin moins exposé. Bizarrement, le métro est très polluant en termes de PM2.5 à cause des freins. Les freins libèrent des quantités impressionnantes de particules fines et généralement, les métros sont très pollués. Le métro de Paris est très pollué.
Vous êtes surpris par le faible nombre de gens qui portent des masques?
Effectivement, mais il faut bien reconnaître que le masque ne servirait pas à grand chose. Il faudrait un masque vraiment couvrant pour, et des cartouches filtrantes qui seraient à changer tous les jours. Donc ça serait une contrainte énorme. Il vaut mieux optimiser son déplacement par le choix de chemins moins pollués que de porter un masque, à mon avis. Carpol a été créé au départ pour les asthmatiques, pour les enfants asthmatiques. Il y a 300 millions d'asthmatiques dans le monde, 3 millions en France. Et sur ces 300 millions d'asthmatiques, il y en a à peu près 1% qui vont aux urgences chaque année à cause d'un pic de pollution.
Donc, on l'a compris, marché d'avenir. Philippe Reltien, faites-nous un petit résumé, s'il vous plaît, pour nos poumons qui n'ont peut-être pas tout saisi.
Oui, juste une petite précision, un petit rajout. Cet appareil-là va équiper les climatiseurs en Chine. Il permettra de déclencher, à partir de l'indice 30, la fonction purificateur d'air de ces appareils. Et ça, c'est très important. Alors, pour toutes les grandes villes de Chine, c'est un peu pareil. Hein. À différentes heures de la journée, à différents endroits, à différentes saisons, vous avez des taux de pollution différents. Premier responsable, au cœur de Pékin, les gaz d'échappement. Il y a plus de 5 millions de voitures pour 20 millions d'habitants dans la capitale, avec des sociétés d'État pétrolières, des raffineurs, qui sont accusés en ce moment par le gouvernement de traîner les pieds pour produire de l'essence aux standards européens.
Mais alors Philippe, ce n'est pas la seule source de pollution.
On va fermer autour de Pékin 1200 usines ou chaudières au charbon. Le charbon, c'est l'ennemi numéro un des poumons chinois. Les autorités des grandes villes sont dans la position de quelqu'un qui ne doit pas être accusé de non-assistance à personne en danger. Alors, ce qu'on voit, c'est l'effort pour prévenir le public à toute heure. Portez le masque ou ne sortez pas, et c'est déjà arrivé.
Alors, je suis chinois, j'ai revendu mon vélo, je suis en voiture, et aujourd'hui, le maître mot, Philippe, c'est...
la domestication du trafic. Pour limiter à Pékin à 6 millions de voitures fin 2017 le parc, il y aura des taxes à payer quand on crée un embouteillage. Ah. La vidéosurveillance, oui, de la police, hein, ne croyez pas que personne ne vous suit, observe en permanence l'évolution de ce trafic et avertit par des panneaux lumineux que tel ou tel axe est rouge, tel autre orange ou vert. Mais jusqu'à maintenant, on ne vous faisait jamais payer pour avoir choisi d'aller dans le rouge, dans l'embouteillage. Il s'agit pour Pékin objectif que certains disent inatteignable, de réduire en 5 ans de 25% le taux de pollution aux particules fines, dont parlait Bruno Aubert, pour que l'indice ne dépasse pas 60 sur l'échelle donc des PM2.5, ces particules des matières solides en suspension de 2 microns et demi, celles qui collent bien au fond des poumons.
Mmh, on voit bien. Alors, Philippe, Chine pour les gens égale atelier du monde égale énergie produite par le charbon.
Eh oui, le prix du charbon, principal combustible dans l'industrie, qui fait de la Chine le premier pollueur mondial, s'est écroulé pendant ces derniers mois où la croissance ralentissait. On continue pourtant à construire de plus belles de nouvelles centrales au charbon ou à convertir les anciennes au gaz sans pouvoir inverser cette tendance avant 2020. L'énergie hydraulique, c'est 3% en Chine, l'énergie nucléaire, c'est 2%, le pétrole et le gaz, c'est 22%, le reste, c'est tout du charbon, c'est tout noir. C'est pourquoi vous avez tant de chantiers en cours sur les fleuves ou sur le littoral, chantiers de barrages, chantiers nucléaires. L'énergie éolienne ou photovoltaïque est subventionnée, mais minime dans l'apport d'électricité.
Dis-moi, mon chéri, ou bien c'est ta voiture de beauf qui consomme 10 litres au 100 en ville, ou c'est moi. Je t'offrirai une auto à pédale pour Noël pour t'amuser et un abonnement à CO2, mon amour, avec Denis Chessoux.
Continuons avec vous, Philippe Rétien, de décrypter donc cette pollution en Chine et donc aussi les remèdes avec une autre partie, l'eau et les sols.
Et oui, la pollution des sols fut longtemps cachée jusqu'à ce qu'on publie la carte des villages du cancer. L'inventaire des sols contaminés est terminé dans la province de Canton. 50% des terrains sont pollués dans le delta de la rivière des Perles et presque un tiers aux métaux lourds. L'intoxication à l'arsenic provoque des cancers. On trouve des pesticides même dans le thé et les herbes médicinales. Au point où l'on en est, c'est aussi dangereux de respirer en ville que de boire de l'eau du robinet. Et c'est sûrement plus safe de boire de l'eau en ville. Une étude publiée le 22 août dans la revue American Science cite 3 bassins gravement pollués. Celui du Tarim dans le Grand Ouest chinois musulman, celui de Mongolie intérieure au nord et celui du Gansu au pied du Tibet. Mais il y en a bien d'autres, autrement plus peuplés. En ce moment, l'agence de bassins Seine-Normandie est en train d'aider à l'épuration des eaux dans la région de Tianjin, à 150 km à l'est de Pékin, par où va arriver cet automne de l'eau potable puisée dans le grand fleuve bleu, le Yangtze, à 1000 km plus au sud.
Et la suite, en fait, logique, elle touche directement les assiettes.
Ben oui, les problèmes d'irrigation sont terribles parce que les nappes sont polluées et que le riz patauge, lui aussi, dans cette eau usée, rejetée par les industries et les villes. 20% du riz dans la province centrale du Hunan serait contaminé au cadmium. Vous savez, le cadmium, ça vient des batteries. À l'heure actuelle, des millions d'hectares de terres arables sont contaminés par des métaux lourds, par l'irrigation avec des eaux usées et par l'entassement des déchets solides. Ça aussi, c'est un gros problème à la sortie des villes et autour des villes. 12 millions de tonnes de céréales sont devenues inconsommables. Le gouvernement veut encourager la consommation, il le dit toujours. Donc, il doit apporter davantage ou bien dépolluer. Et dépolluer. La pollution des sols commence à dater. Elle inquiète nos industriels aussi, qui doivent parfois prouver que les malaises de leurs employés ne sont pas dus à ce qu'ils respirent ou à l'eau qu'ils boivent sur leur lieu de travail, mais au sol pollué depuis longtemps. On attend la promulgation de la loi sur la dépollution des sols.
Alors on est obligé évidemment de creuser, de forer de plus en plus profond pour essayer de trouver de l'eau à peu près, on va dire, correcte. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment on boit et que boit-on, Philippe ?
20 millions de Chinois seulement boivent de l'eau du robinet. C'est peu pour une population d'1,35 milliard, parce qu'ils savent qu'elle n'est pas bonne. Vous imaginez l'importance de l'industrie de l'eau en bouteilles plastiques en Chine, mais vous n'imaginez pas le nombre de gens, chaque matin, même dans Pékin, qui la font bouillir sur un mauvais charbon qui pollue pour la verser dans la bouteille thermos du mari qui part au travail ou des gamins qui vont à l'école.
Alors Philippe, en conclusion, la dépollution de l'air, des sols, bon, sera donc une grande cause nationale, mais qu'est-ce qui garantit l'efficacité et l'application de ces mesures ?
Et les objectifs de réduction de CO2 en pourcentage au niveau national n'ont jamais été atteints jusqu'ici. Ce qui serait nouveau, et on verra ça en novembre, si ça se fait, c'est qu'on impute ces manquements aux chefs des gouvernements locaux, qui perdraient ainsi des points d'avancement, et que ceux qui avancent des chiffres de croissance mirobolants, incroyables pour leur province, ça existe toujours, soient priés de mettre sur la table un bilan énergétique contrôlé indépendamment. Peut-être que ça, c'est une utopie.
Alors, les énergies renouvelables, où en est-on? Parce qu'on nous présente toujours la Chine comme étant très en avance sur les énergies renouvelables.
Moi, on y va, mais vraiment en ordre dispersé. La question du temps nécessaire pour produire des énergies propres à un coût compatible avec une demande constamment en hausse et une croissance plus modérée est la bonne question, vu la dépendance aux énergies fossiles. À peine 1% de l'électricité consommée en Chine est vraiment verte. On entre dans l'ère des centrales nucléaires modernes avec la difficulté de faire accepter au public, on vient de le voir dans la région de Canton, les usines qu'il faut pour fabriquer les barres de combustible. Et il y a pléthore de projets en concurrence avec chantiers de barrages toujours plus hauts, toujours plus puissants et de réacteurs nucléaires EPR français à mettre en route bientôt sur le littoral sud. Les Chinois classent l'énergie nucléaire dans les énergies vertes.
Ce qui serait un rêve d'ailleurs pour beaucoup d'ingénieurs français. En ce qui concerne les panneaux solaires et les éoliennes.
Eh bien, made in China, les panneaux solaires, ça on le sait. Et ils sont plus vendus à l'étranger qu'installés en Chine. Question de rentabilité à court terme. La demande augmente, les prix du charbon baissent. On amène le charbon meilleur marché de Russie, de Mongolie, de Corée du Nord. Donc voilà, pourquoi pas continuer comme ça.
Les gaz de schiste aussi.
Eh bien, elles sont une autre utopie. Situées à moins 3000 mètres sous terre dans des zones sismiques, dans le Sichuan notamment, même les sociétés étrangères les plus goulues préviennent « attention, c'est très risqué ». Alors la Chine doit continuer à se fournir en pétrole et en gaz dans le monde entier. Un vrai puzzle, sa diplomatie du pétrole. On doit parer au plus pressé et les Chinois sont un peu des cobayes, j'allais dire nos cobayes.
Bien, merci beaucoup Philippe Rétien. Prenez soin de vous, hein, parce que vous êtes aussi un petit peu cobaye, vous le savez. Vous buvez de, qu'est-ce que vous faites? Vous buvez de l'eau en bouteille, vous faites là-bas, vous êtes...
De l'eau en bonbonne.
En bonbonne,
Les gens se font livrer de l'eau en bonbonne tous les matins. Et cette eau en bonbonne est d'ailleurs suspecte, mais c'est le meilleur moyen. Et comme on n'a pas le temps de la faire bouillir sur la marmite, enfin sur le gaz, on s'en contente. Mais il faudrait aussi la tester, sans doute. En tout cas, il y a plein d'eaux minérales différentes. Il y en a presque une marque par mois qui naît et on ne sait pas d'où ça vient.
Voilà, puis même si on boit de la bière, il faut quand même de l'eau pour la bière. Merci beaucoup Philippe Rétien. Donc après notre première ferme éolienne financée par les particuliers, le fil de la ville téléphérique dans le Val-de-Marne, l'énergie des hydroliennes et la Chine. Ah bah, Julien Doré, c'est bien aussi.
Le temps que l'on se pose.
C'est Julien Doré sur France Inter, Paris, Seychelles, je ne sais pas quel taux de carbone, mais enfin les gens ils font bien ce qu'ils veulent. Là n'était pas le sujet, merci à Stéphane Combe, notre assistant, Christophe Imbert qui réalisait cette émission, à Al Bérouk, et qui je souhaite d'ailleurs un excellent rétablissement personnel, qui est un ami des blaireaux anglais, mais oui, Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui a nourri les sites, le site de CO2 Mon Amour, donc allez-y hein, si vous souhaitez échanger, ne vous gênez pas, laissez tous les messages. Le autre message aussi au 01 56 40 40 30 01 56 40 40 35, annonce de manifestation, agenda, donc c'était donc vraiment de ce numéro est à votre disposition. Vous pouvez réécouter l'émission, la podcaster. Demain je vous retrouve à 19h54 après les petits bateaux pour l'Atu du Mon Petit Loup. Vous écouterez aussi demain à 15h avant l'Atu du Mon Petit Loup, vivre avec les bêtes, ce sera donc avec Alain Bougrain Dubourg. Et puis dans quelques instants on retrouve Emmanuel Kérad pour sa librairie francophone. Bon week-end à tous.